Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
La prochaine étape de vos chroniques sur le Sud, celle qui vous est préparée, présentée par Mathieu.
Imaginez, vous êtes en été, en vacances dans le Sud, au bord de la mer. Bref, il fait chaud et vous avez envie de glace et autres sorbets.
Allez, ce qu'on se demande à ce moment-là, c'est quelle est l'histoire de la glace ?
Ben, en fait, l'origine est incertaine, mais on raconte qu'elle serait apparue au IIe siècle avant Jésus-Christ. Un commerçant, pour garder ses boissons au frais, les plongeait dans des cuves d'eau salée. Un jour, la nuit était particulièrement fraîche et, sans grande surprise, les boissons avaient gelé. Il eut alors l'idée d'ajouter du lait de chèvre et du miel. Et voilà, la première forme de glace est née. Plusieurs siècles après, les peuples arabes étaient friands des charbets. Vous l'avez sûrement deviné, il est à l'origine de notre mot sorbet. Les jus de fruits étaient congelés avec de la neige et de la glace. On raconte même qu'en 300 avant Jésus-Christ, à la cour d'Alexandre le Grand, la glace existait déjà sous la forme de macédoine de fruits. Ils mélangeaient le tout à du vin et ou du miel. Après, peut-on vraiment appeler ça de la glace ? À vous d'en juger. Les historiens ont aussi retrouvé des traces de glace dans l'Empire romain. Il paraît même qu'il faisait venir de la neige des monts Apennins jusqu'à Rome. Autant vous dire que les glaces n'étaient pas données. Puis, la glace va disparaître et revenir en Europe à la fin du XIIIe siècle. Nous pouvons remercier Marco Polo qui l'a ramené de son long voyage en Chine. Il faudra tout de même attendre 1660 pour voir apparaître les premiers cafés qui vendaient de la glace. Mais elles étaient réservées à l'aristocratie. À la fin du XIXe siècle, les premiers marchands de glace ambulances apparaissent. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, un laitier américain eut l'idée d'utiliser le surplus de crème de lait pour fabriquer de la glace. L'industrie glacière américaine est née.
Alors, ok, tu as raison, mais au début, il était impossible de conserver les glaces.
Ben, à part vous rafraîchir en hiver, il n'existait aucun moyen pour conserver les glaces. C'est qu'en 1982, une machine capable de fabriquer de la glace est mise au point. Cocorico, par un Français, Ferdinand Carré. Les techniques de conservation vont sans cesse s'améliorer jusqu'en 1929. L'Américain Clarence Birtsey donne naissance au principe de surgélation. En France, la première machine à glace moderne est commercialisée qu'en partir. Oula. En France, la première machine de glace moderne est commercialisée qu'à partir de 1945. Concernant les bâtonnets, elles n'apparaissent que tardivement, en 1904, à l'exposition universelle des États-Unis. Bon, aujourd'hui, les techniques de glace ont encore évolué. On utilise également de l'azote liquide pour fabriquer nos fameuses glaces. Vous l'aurez compris, la glace a encore de belles années devant elle.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Bonjour Mathilde, je crois que les Français commencent un peu à saturer du confinement en ce mois de novembre. Si on voyageait un petit peu.
Ah mais c'est une super idée ça Olivier. Et puis entre nous, les vacances d'été sont passées à une de ces vitesses. Je pense que tous les Français sont nostalgiques de leurs vacances dans le sud de la France. Parce qu'il faut se le dire, cette année on pouvait pas vraiment faire le tour du monde. Alors on était bien contents de profiter de nos belles plages tricolores, du soleil et du chant des cigales. Et d'ailleurs, en parlant de cigales, ce sont elles qui bercent nos étés. Et puis, le reste de l'année, on décore nos maisons avec de belles copies en plâtre. Mais au final, est-ce qu'on les connaît réellement ? Eh ben, pas tant que ça en y réfléchissant. Tenez par exemple, savez-vous pourquoi elles chantent ?
Ah ben non, ça c'est une bonne question.
Eh ben, ça va sûrement vous étonner, mais toutes les cigales ne chantent pas. Ce sont seulement les mâles. En fait, ils ont une membrane à la base de leurs ailes qui s'appelle la cymbale. Elle peut claquer jusqu'à 900 fois par seconde, ce qui produit un son différent pour chacune des 4500 espèces. Du coup, la cigale, c'est un peu comme un instrument de musique, et le ventre du mâle, une caisse de résonance. Bon, c'est sympa de savoir tout ça, mais au fond, à quoi ça sert? Eh ben, j'y viens. Le mâle chante pour attirer les femelles et pour leur faire la cour afin de se reproduire. Du coup, si la cigale nous fatigue tout l'été, c'est simplement pour draguer dans les arbres pendant qu'on boit l'apéro.
Quel romantisme, cette cigale. Mais elle s'arrête jamais de chanter?
Eh ben, les cigales sont les insectes les plus bruyants au monde. Pourtant, elles passent la majorité de leur vie à être muettes. Étrange, non? Eh ben, pas vraiment. Parce qu'avant de muer, la cigale est une larve qui vit sous la terre. D'ailleurs, elle peut y vivre jusqu'à 7 ans sans voir la lumière du jour. Et puis, le début de sa vie aérienne marque la dernière année de sa vie, car toutes les cigales adultes ne survivent pas à l'hiver. Du coup, on comprend mieux pourquoi la cigale est notre star de l'été. En fait, plus il fait chaud et plus la cigale chante, car la membrane qui sert à la cymbalisation doit être souple. Donc, si la température ne dépasse pas les 22 degrés, les cymbales sont trop rigides pour qu'elles puissent chanter. Et des fois, faut bien avouer que ça nous arrange. Et des fois, faut bien avouer que ça nous arrange, parce qu'au bout d'un moment, le chant des cigales, ça devient vite redondant. Mais bon, maintenant, quand vous entendrez chanter une cigale, repensez à tout ça, et dites-vous que dans la branche au-dessus de vous, il y a juste une cigale mâle qui se démène pour sortir avec la cigale femelle qui traîne depuis 2 jours à l'autre bout de la branche. Alors, un peu de compassion, non ?
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
On continue sur les pas du Sud avec Arthur. Bonjour Arthur.
Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez sûrement, le Sud de la France, c'est un peu un monde à part. C'est pour ça que je vous ai contacté un petit jeu aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur toute cette culture. Et il s'appelle Sud ou pas Sud. Donc le concept, il est très simple aujourd'hui. Je vais vous donner une expression, un mot, une spécialité. Je me suis restreint à l'arrière-pays niçois pour que ce soit un petit peu plus simple. Et donc ses alentours aussi. Et vous allez devoir me dire si ça vient du Sud ou non. Donc on va commencer avec un exemple assez simple. Si je vous dis pastaga, vous me dites ?
Il faut répondre. Sud. Sud.
Sud, bravo. Et si je vous dis ubarachunk, vous me dites ?
Pas Sud.
Bravo. Bon, on va pouvoir commencer. Bon, on commence facile. Si je vous dis le mot stupeng, vous me dites
Pas Sud.
Et bah, malheureusement, c'était Sud. Stupeng, ça vient du patois mentonné niçois et ça désigne un simple chiffon, en fait. Bon, on va retenter. Si je vous dis clanche, vous me dites
Pas Sud.
Bravo, c'était Pas Sud. C'est l'expression qu'on utilise plus dans l'est de la France pour dire poignée de porte. Nous, dans le Sud, on dit poignée de porte comme tout le monde, des gens normaux, quoi. Maintenant, si je vous parle de la soca, Sud ou pas Sud ?
Sud.
Bravo, Sud. Donc, la soca, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une préparation à base de farine de pois chiche et d'huile d'olive qu'on fait cuire au feu à bois. Maintenant, si je vous parle de rumpébal, vous me dites ?
Je dirais Sud.
Et c'est Sud. C'est encore du patois niçois pour parler de quelqu'un d'agaçant, en fait. Et ensuite, maintenant, si j'utilise l'expression « avoir le cul bordé de nouilles », vous me dites
ben là, je dis Cyril Hanouna.
Et non, c'est Sud. Non, c'est Sud. C'est l'équivalent pour dire de quelqu'un qui est très chanceux. Et si, maintenant, je vous parle de « truc au choc », vous me dites
là, je dis pas Sud.
Bravo, c'était pas Sud. En réalité, ça vient du berrichon et c'est tout simplement pour désigner un pain au chocolat. Eux, ils ont réussi à mettre fin au débat. Bah écoutez, je pense qu'on aura appris quelques expressions et quelques bonnes choses du Sud et on peut maintenant s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Bonjour Lucas, aujourd'hui tu vas nous parler d'un programme que beaucoup d'entre nous connaissent. Ça se passe sur W9 en maillot de bain avec un accent bien prononcé et des expressions que l'on voit nulle part.
Bonjour Olivier, et oui, vous l'aurez deviné, je vais vous parler des Marseillais versus le reste du monde qui a été tourné cet été dans le Var. C'est un peu le programme tant attendu par les plus jeunes, bien plus apprécié que Les Anges sur NRJ 12. Non pas que je sois un grand fan de ce genre d'émission, mais je vous rassure, mais je pense que le programme mérite qu'on s'attarde un peu dessus.
Dis-nous tout.
Les Marseillais versus le reste du monde, c'est quoi ? Très brièvement, c'est une télé-réalité qui réunit deux familles. Oui, oui, famille. Car ils s'appellent tous entre eux « Ma vie ». Entre nous, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Les candidats se connaissent depuis 2 jours, mais ça se galoche et ça prévoit un mariage ainsi qu'une vie de famille. La vie est si simple. Mais bien évidemment, dès qu'une plus jolie fille débarque, les jaguars commencent leur chasse, si je peux me permettre. Oh oh oh, je sens les mecs râler. Attendez, ce n'est pas mieux du côté des filles. Alors là, aucune solidarité féminine, non, non. Elles sont copines, mais se disputent pour le même gars. Normal, non ? Bref, ces deux familles s'affrontent dans des épreuves durant 10 semaines pour un titre en jeu, lequel ? Celui de la meilleure famille. Mais interdiction de se moquer, les épreuves sont vraiment trop dures. Entre deviner le titre d'une musique dans une boule qui tourne, des questions de haute culture générale telles que « Qui est Neil Armstrong ?» Marine avait bien sûr la bonne réponse. Eh oui, celui qui a découvert l'Amérique. On espère que la production s'est excusée auprès de Benjamin Samat pour le sport qu'il a pratiqué toute l'année, en vain. Les tablettes restent agréables à regarder, ne dites pas le contraire, les filles. Je dois dire que le programme est plein de rebondissements, des larmes, des rires, des disputes, des stratégies, des trahisons, de l'amour. Mais c'est ça qu'il nous faut pour éviter la dépression en cette fabuleuse année qu'est 2020. Merci à tous et à très bientôt.
Merci Lucas. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique. Mais en attendant, on s'écoute un petit morceau sur le thème du Sud.
Il fait chaud, envie de faire que dalle. Le vent vend les oliviers argentés. Le temps s'arrête un peu pour respirer. Le ciel est clair. C'est le retour des beaux jours. Il fait beau.
Il fait beau.
Ta peau sent la lavande. Il fait chaud.
Il fait chaud.
Mes mains en redemandent. Le vent vient doucement te caresser. S'arrête un peu pour regarder. Le ciel est clair, c'est le retour des beaux jours.
Tout de suite s'embarquer pour la Camargue avec Eva. Bonjour Eva.
Bonjour, je vais tout de suite vous mettre la musique que j'ai sélectionnée. Je pense qu'on a tous envie de vacances après avoir entendu cette mélodie, surtout en cette période un peu difficile. Et tant qu'à faire, on va pas aller loin, direction le sud avec les plus beaux endroits à visiter en Camargue. Il s'agit d'un véritable petit coin de paradis composé de 120 000 hectares de terre. La Camargue possède de nombreux lieux à visiter. Je vais d'ailleurs vous en présenter quelques-uns. Réputé pour avoir inspiré le célèbre peintre Van Gogh, Arles est une ville remplie de charme qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville possède une grande richesse culturelle et architecturale qui regroupe un très grand nombre de monuments romains. On y retrouve notamment un amphithéâtre romain ou encore la cathédrale Saint-Trophime. Se situant à 37 km d'Arles, le petit village des Saintes-Maries-de-la-Mer est la capitale de la Camargue et donc spécialiste de tradition camarguaise. C'est un véritable lieu de pèlerinage pour les croyants. On peut notamment visiter son église fortifiée et découvrir son folklore unique. La réserve nationale de Camargue abrite près de 13 000 hectares composés de 277 espèces d'oiseaux, dont les flamants roses qui en sont l'emblème, et de toute autre espèce d'animaux sauvages vivant au cœur même de la nature. Bénéficiant de vastes étendues sauvages, ces chevaux, ces taureaux et ces oiseaux ont de quoi faire rêver plus d'un confiné. Un lieu hors du temps où l'on peut se laisser transporter par la nature. Comme au parc ornithologique du Pont de Gaulle avec ses dizaines d'espèces d'oiseaux. En temps normal, l'endroit est déjà sauvage, mais avec la crise du coronavirus, et surtout avec le confinement, c'est impressionnant. On n'entend plus que les oiseaux qui ont pris leurs aises dans le parc. Ils nichent même le long des sentiers désertés par les visiteurs. On peut donc dire que cette crise sanitaire est néfaste pour l'espèce humaine, en général. Cependant, elle est aussi bénéfique pour la plupart de l'espèce animale. La nature qui reprend ainsi ses droits. Superbe et sauvage, la Camargue colle tout particulièrement avec un déconfinement en douceur.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Une autre chronique qui a un rapport avec le Sud, c'est celle de Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour. Alors aujourd'hui, un tapis rouge qui restait rouge. Le mois dernier, une édition spéciale du Festival de Cannes s'est déroulée sur la Croisette. On pouvait y assister du 27 au 29 octobre. Une partie de la sélection officielle Cannes 2020 était projetée au Palais des Festivals et des Congrès. Soyez rassurés, cette mini-sélection avait tout de même respecté les règles du couvre-feu. Les places étaient gratuites et pouvaient être réservées en ligne. Un peu gênant, me direz-vous, mais cette édition est à l'image d'un festival où le protocole importait peu, où la bienveillance était mise.
Pourquoi cette édition a été si différente des autres ?
C'est très simple, elle s'est déroulée loin des paillettes, du glamour et du fest de mai. Cette édition spéciale 2020 avait comme prévu en fait plus des airs intimistes d'avant-première de province et de manifestations symboliques de mini-messe du cinéma mondial. Et pour cause, c'est en fait parce que la ville de Cannes a été particulièrement touchée par les conséquences économiques liées au coronavirus. Et ils ont donc organisé ces 3 jours rythmés par la projection de 4 films estampillés et de 2 compétitions de courts-métrages. On était partagé entre le bonheur de retrouver le palais des festivals et la peine de sentir de ce qui nous sépare du festival tel que nous le connaissons. Contrairement au mois de mai, et assez logiquement, la ville ne transpirait pas du tout le cinéma. Quelques râles festivaliers noyés au milieu des touristes, alors que plutôt c'est l'inverse en fait en période de festival. Un tapis rouge quasi désert, un calme tranchant avec l'habituelle ébullition cannoise et évidemment aucune fête. C'était un peu tout Tomorrowland sans DJ en fait.
Oui, alors est-ce que le festival de Cannes aura lieu l'année prochaine ?
À l'heure actuelle, rien ne nous encourage à penser que nous serons débarrassés de cette épidémie en 2021 et surtout en mai prochain vu que c'est le début de l'année. L'enjeu est donc de rendre possible la tenue du festival dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Mais Thierry Frémaux l'a dit. Cette édition 2021 se tiendra quoi qu'il arrive. Il a d'ores et déjà réservé le palais des festivals sur plusieurs créneaux pour voir si besoin le décaler. Il est prévu pour l'heure en mai. Évidemment, à voir comment la situation sanitaire évolue. Privilégions les gestes barrières. L'année 2021 signera peut-être le retour de plusieurs choses qui nous manquent tant, et comme la lumière du cinéma.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
On retrouve Colline pour un sujet assez stupéfiant qui a un rapport avec le Sud. Bonjour Colline.
Bonjour. Alors, quand je vous évoque, quand on évoque le Sud de la France, vous pensez tous aux cocktails, au bord de la mer, les pieds en éventail, avec les chants de cigales en bruit de fond, n'est-ce pas ? Étant moi-même une sudiste, je peux vous affirmer que ce cliché est véridique, enfin seulement l'été, hein, sinon c'est pas trop pareil. Mais bon, aujourd'hui, vous allez être désillusionnés. Et oui, j'ai décidé de parler du trafic de drogue dans le sud de la France. Ça fait un peu moins rêver, hein, mais bon, ça n'en est pas moins une triste réalité. Alors, quand on parle de trafic de drogue dans le sud, on pense directement à Marseille, entre autres, au quartier nord, qui sont régulièrement sujets à des règlements de compte. C'est d'ailleurs les premiers résultats qui sortent lors d'une simple recherche Google. Pas plus tard que le 25 octobre, il y a eu 3 morts et 1 blessé grave en un seul week-end. En toile de fond de ces règlements de compte, le trafic de stupéfiants. Alors, c'est véridique que Marseille est une fourmilière pour le trafic de drogue. Et en septembre, un réseau a d'ailleurs été démantelé. Il était étroitement lié à la mafia calabraise qui vient, elle, du sud de l'Italie. Comme quoi, le sud de la France pourrait devenir une inspiration pour les séries Narcos ou Queen of the South, pas vrai? Mais le trafic de drogue n'est pas que présent à Marseille. Toutes les villes festives comme Saint-Tropez en sont victimes, les soirées jet-set et l'affluence de touristes en font le lieu parfait pour les vendeurs de stupéfiants. L'été, les ventes explosent dans les boîtes de nuit, les festivals, les soirées privées pour les plus riches. Et durant l'année, les consommateurs réguliers ont largement de quoi se fournir. Les membres de forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour arrêter ces réseaux bien ancrés. En septembre, un réseau a été démantelé. 11 kilos de cocaïne, 7 voitures de luxe, des armes et 50 000 euros ont été trouvés. Et 8 suspects ont donc été interpellés. De plus, un vaste réseau qui blanchissait environ 90 millions d'euros par an, d'argent provenant du trafic de drogue, évidemment, a été démantelé début novembre. C'est ce qu'a annoncé à la gendarmerie française. Et il y a toujours de nombreuses saisies qui sont effectuées quotidiennement, mais en plus petite quantité. Mais honnêtement, les mauvaises herbes repoussent toujours, et donc les réseaux de trafic de drogue aussi. J'ai d'ailleurs été surprise quand j'ai découvert que mon village natal avait lui été aussi touché par ce fléau. Il y a 2 ans, un trafic de cocaïne a été découvert et arrêté entre Toulon et Belgencier. Belgencier qui est pourtant un petit village provençal à l'apparence tranquille, comme quoi il faut se méfier des apparences.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
On continue nos chroniques sur le sud avec Aymeric. Bonjour Aymeric.
Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité politique, notamment au sujet des projets de loi, mais fin septembre 2020, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a proposé le projet d'empêcher les parcs français de détenir des orques à partir de 2022 et des dauphins à partir de 2027. En effet, cela s'avère être un bon projet pour le bien-être animal, mais pas pour tout le monde. En effet, si vous ne le savez pas, le parc Marineland, situé à Antibes, propose des spectacles dont ces animaux sont les principaux acteurs. Donc, par conséquent, si la suppression de ces espèces des parcs français entre en vigueur, Marineland pourrait se retrouver contraint de fermer son parc. Le directeur de Marineland, Pascal Picot, s'est lui-même expliqué sur le sujet en parlant d'une injustice envers les parcs aquatiques, mais aussi sur le fait de devoir placer des orques dans des sanctuaires adaptés, le tout dans un délai de 2 ans, ce qui serait irréaliste. Effectivement, pour le placement des 4 orques et des 12 dauphins de Marineland, le gouvernement réfléchit à des sanctuaires en mer. Quant à elle, Christine Grandjean, qui est la présidente de l'association Anticaptivité 7AC, qui lutte donc pour la liberté des animaux marins, évoque une crainte quant aux structures d'accueil des orques, mais reste confiante sur la solution des sanctuaires pour les dauphins, tout en évoquant un soulagement suite à 6 années de combat pour la liberté de ces animaux. Alors en effet, comme le rappelle Christine Grandjean, de nombreux autres pays qui détiennent des animaux de ces espèces ne votent pas des lois de ce genre et seraient donc en capacité d'accueillir ces animaux, ce qui ne ferait que déplacer le problème. Quant à une contrepartie financière, le gouvernement annonce une enveloppe d'un minimum de 8 millions d'euros à partager entre les 3 parcs possédant des delphinariums, soit Marineland, Planète Sauvage et le parc Astérix, mais aussi entre tous les cirques de France, puisque ce projet de loi englobe aussi la suppression des animaux sauvages dans les cirques. Une somme dite ridicule pour le directeur de Marineland et Jean Leonetti, le maire d'Antibes, mais aussi la crainte d'une vague de suppression d'emplois assez énorme, puisque Marineland emploie 160 CDI et quelques 500 saisonniers. Certes, les projets futurs tels que la reconversion en parc de loisirs aquatiques avec toboggan et piscine peuvent paraître crédibles. C'est sur le manque à gagner que cela pêche, car même si les villes du Sud font partie des plus fréquentées pendant l'été, Marineland reste un lieu incontournable.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
On reste dans le Sud avec Pierre et une nouvelle chronique sur le Sud. Bonjour Pierre.
Bonjour. Eh oui, décembre arrive, le temps se rafraîchit et vous avez déjà peut-être aperçu les premiers flocons de neige tomber près de chez vous. Eh oui, l'hiver et les fêtes de fin d'année sont bientôt là. D'ici quelques jours, vous allez sûrement préparer votre crèche de Noël et la remplir avec ces petites figurines en argile, les 100 ans de Provence. Eh oui, ces petites statues d'argile qui animent vos crèches sont en majorité créées dans le Sud. Ces figurines servent à illustrer la naissance de Jésus. On y retrouve donc l'enfant Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph, les rois mages, des animaux et tout un tas de petits personnages représentant les habitants d'un village provençal et leur métier traditionnel. Tous ces personnages font route au travers d'un paysage comportant traditionnellement une colline, une rivière avec un pont et des oliviers. Ils se dirigent tous vers l'étable munis de cadeaux pour la naissance de Ils se dirigent tous vers l'étable munis de cadeaux pour la naissance de Jésus.
Est-ce que vous savez d'où viennent ces santons, Pierre ?
À l'origine, ces crèches étaient des crèches vivantes. Mais après la Révolution française et la fermeture des églises, celles-ci furent arrêtées. C'est alors qu'en Provence, des petits personnages sont apparus, des santounes, où petits saints ont été créés pour qu'une crèche de Noël puisse voir le jour dans l'intimité des foyers provençaux. Les tout premiers santons étaient construits en mie de pain, mais petit à petit, c'est l'argile rouge de Provence qui a été privilégiée pour la fabrication. Le véritable santon de Provence a été construit en argile non cuite à Marseille. Aujourd'hui, il y a une forte concentration d'ateliers de santons dans le sud de la France. On en retrouve à Marseille, au Bagne ou encore Aix-en-Provence.
Alors, est-ce qu'il existe des endroits où sont regroupés un grand nombre de ces figurines d'argile ?
Effectivement, il existe plusieurs musées dans le sud de la France, notamment le musée de Fontaine-Vaucluse, qui a été construit en 1987. On peut y retrouver près de 2000 pièces, mais également une des plus petites crèches au monde. Elle arrive à tenir dans une demi-coque de noix. Toujours en restant dans les faits insolites de ces crèches, on retrouve la crèche de Grignan, dans la Drôme provençale. Elle est considérée comme la plus grande crèche du monde. Ils ont été jusqu'à reproduire un village provençal composé de plus de 80 maisons, dont la hauteur peut aller jusqu'à 1,20 m. Elles ont été construites avec les matériaux présents dans la région, comme la pierre, du bois ou encore du ciment. Ces maisons ont été recouvertes par pas moins de 60 000 tuiles et ces maisons pèsent entre 50 et 120 kg. La crèche couvre au total 1116 m² et contient plus de 1100 santons.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
On commence nos chroniques sur le sud avec Alexis. Bonjour Alexis.
Bonjour. Donc, connaissez-vous le Z-Event et savez-vous en quoi cela consiste ? Il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler car c'était l'événement phare de cette année 2020, année pourtant si mal partie. Mais pour nous ignorants, le Z-Event est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dacheri, alias Zerator et Dash. Le but est simple, récolter un maximum d'argent pour une association pendant un week-end. Et pour ça, les plus grands animateurs du jeu vidéo, alias les streamers, s'unissent ensemble et diffusent du contenu en direct. C'est essentiellement tourné vers le gaming, mais on peut aussi avoir du talk show ou des activités manuelles. Pendant plus de 50 heures, nous, les spectateurs, alias les viewers, sommes sollicités à se mobiliser. Cette année, c'était la 5e édition de l'événement. Elle a eu lieu le week-end du 16 au 18 octobre. La grande majorité des streamers se sont retrouvés dans le sud, à Montpellier, tandis que d'autres ont dû rester à distance à cause du fléau qu'est la crise sanitaire. Après avoir collecté plus de 3,5 millions d'euros l'année dernière pour l'Institut Pasteur, cette année, ils se sont surpassés en récoltant plus de 5,7 millions d'euros pour Amnesty International.
Mais alors, qui sont Amnesty International et quels sont leurs objectifs ?
Bonne question ! Amnesty International est une ONG qui défend les droits humains en militant pour la liberté d'expression, l'arrêt de la torture et beaucoup d'autres actions qui violent les droits humains. Avec tout cet argent récolté, ils vont pouvoir ainsi faire plus de recherches dans le monde des violations afin de pouvoir se mobiliser contre. N'hésitez pas à regarder le site d'Amnesty International si vous souhaitez avoir plus de détails sur les actions mises en place.
Tout ça, ça semble très prometteur. Hein. Mais comment ont été reversés les fonds pour l'association ?
Très simple, tout se passe sur Twitch, une plateforme où l'on peut diffuser du contenu en direct et avoir une interaction entre les streamers et les viewers. Il suffit juste que vous ayez dans le canal d'un des streamers participant au Z-Event, scroll en dessous du live en direct et cliquez sur le bouton « Faire un don » directement relié à la cagnotte de Amnesty International. Il y a aussi la boutique en ligne qui récolte des fonds. Ils ont aussi empoché plus de 2 millions d'euros grâce au t-shirt Z-Event vendu. Quant aux streamers, chacun possède des « donation goals », c'est-à-dire des paliers d'argent que s'ils sont atteints, des gages ou des actions sont réalisés. Ils peuvent être hilarants comme loufoques. Par exemple, un des donation goals était de faire le trajet Montpellier-Marseille Tout cela à vélo. Tout ça pour vous dire que le monde du jeu vidéo, souvent dénigré par les médias, ne cesse de nous surprendre. On compte sur vous pour la prochaine édition pour exploser tous les records.
C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Et pour un rien, elles se parlent, elles font marcher le bec. Au bout d'un moment, elles râlent, le gosier sec. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Et les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Allez, travaille, cigale, feignante, allez. La chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles n'ont aucune hâte, à part celle de chanter. Mais force est de constater qu'elles se déshydratent. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Aïe, 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 oh, c'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent.
Sans transition, on va s'embarquer dans le petit monde des séries sudistes avec Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour. Alors si je vous dis une série avec de l'action, du suspense et qui a été tournée en Espagne, c'est bien évidemment La Casa de Papel. C'est la série sur Netflix la plus connue. Saviez-vous que selon Netflix, plus de 34 millions de foyers dans le monde ont regardé La Casa de Papel? Il faut savoir qu'au départ, c'est une série télévisée espagnole diffusée sur la chaîne Antenne 3 en Espagne. Par la suite, c'est Netflix qui a racheté la série pour une diffusion sur sa plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas La Casa de Papel, c'est l'histoire d'un homme surnommé le professeur et qui planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs en Espagne et qui n'ont rien à perdre. Le but est d'infiltrer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en petites coupures de 50 euros. Tout cela en moins de 11 jours, sans victime, malgré la présence de 67 otages, dont la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Alison Parker. Au niveau des décors, il faut savoir qu'il a fallu plus de 3 mois et une quarantaine de professionnels pour construire les décors de l'intérieur de la fabrique. De plus, la série bénéficiait de 565 000 euros pour produire, tourner, monter un épisode de 70 minutes pour les deux premières saisons. Pour ceux qui ont vu la série, je vous donne quelques anecdotes. Par exemple, à l'origine, les personnages devaient porter des noms de planètes. Les faux billets utilisés sont fabriqués grâce au papier recyclable. Les faux billets utilisés sont fabriqués grâce au recyclage des déchets de l'émission ABC. Enfin, Alvaro Morte, qui joue le professeur, a dû prendre des cours d'origami pour jouer son rôle à la perfection. J'ai déjà regardé cette série et c'est pour moi la meilleure série sur Netflix. Donc si vous cherchez une série à regarder où il y a de l'action et du suspense, je vous la recommande à 100%. Pour ceux qui ont déjà vu les 4 premières saisons, ne vous inquiétez pas, le tournage de la saison 5 a commencé depuis juillet et devrait sortir en 2021.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT NMI du Puy-en-Velay.
Eh bien, on va s'embarquer pour le Sud, mais cette fois-ci pour l'Afrique du Sud.
Oui, en effet, on va partir dans le monde de la musique avec un titre qui va vous rappeler l'été. C'est sûr que vous avez déjà entendu de cette musique, que ce soit en allant au travail ou si vous avez des jeunes à la maison. Je parle bien sûr de Jérusalemma, un tube qui nous vient d'Afrique du Sud et qui est produit par le DJ sud-africain Master KG, qui met de bonne humeur dès le matin avec un rythme qui nous donne envie de danser. Alors désolé si je prononce mal son nom, Nomsebo Zikode est celle qui a écrit et interprété cette chanson en langue zoulou avec une voix assez particulière pour une femme sur un air d'afropop.
Alors, en effet, cette musique est bien connue et très entraînante. Et qu'est-ce qu'elle signifie ?
Alors, ce titre fait hommage à la ville de Jérusalem. L'interprète vient aussi d'Afrique du Sud, ce qui rajoute une... Alors, ce titre fait hommage à la ville de Jérusalem. L'interprète vient aussi d'Afrique du Sud, ce qui rajoute une identité à la musique. Encore une fois, je m'y connais pas trop en zoulou pour le prononcer, mais la phrase Indolosé, qui est souvent reprise dans les paroles, signifie protège-moi, car la chanson fait référence à une prière de Dieu.
Alors, est-ce que ce son est sorti de nulle part ? Non, hein.
Bah, à sa sortie, le titre n'était pas du tout connu. Même Master KG ne s'y attendait pas. Lors d'une interview, il dit « Je n'aurais jamais pensé que cette chanson attirait l'attention de tout le monde. » C'est seulement quand un groupe de danseurs africains fait une chorégraphie sur cette chanson qu'il commence à être écouté par tout le monde. Mais ce n'est pas le seul clip qui est sorti sur cette musique. Le morceau est inspiré de Jérusalemma Dance Challenge. Et du coup, pendant des mois, des centaines d'anonymes ont filmé des petits clips où ils dansent sur le morceau avant de les partager sur les réseaux sociaux. C'est même remonté jusqu'au président sud-africain qui a proposé à ses compatriotes de créer un clip à l'occasion d'un jour férié en septembre. Il devient donc un tube planétaire. Il est repris principalement sur TikTok, une appli utilisée par les jeunes pour partager leurs danses sur leur musique préférée. Le clip officiel dépasse maintenant les 250 millions de vues sur YouTube depuis sa mise en ligne en décembre 2019. C'est aussi un des morceaux les plus chazamés. Donc si vous n'avez jamais écouté cette musique, je vous invite à le faire. Elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT NMI du Puy-en-Velay.
Et bien maintenant, nous nous retrouvons avec Martin qui va nous présenter sa chronique sur le rugby en Afrique du Sud. Bonjour Martin.
Bonjour à tous. Du coup, maintenant, on va un petit peu changer de registre et on va partir beaucoup plus dans le Sud en parlant de l'Afrique du Sud et plus particulièrement de son équipe de rugby.
Pourquoi parler du rugby en particulier ?
Tout simplement car ils ont gagné les derniers championnats du monde qui avaient eu lieu au Japon en 2019. Et en plus, grâce à cette victoire, ils ont rejoint les All Blacks avec un troisième titre de champion du monde. Les All Blacks qui sont d'ailleurs le principal rival de l'Afrique du Sud depuis plusieurs années. Chaque année, ils disputent notamment les Rugby Championship. Alors, en gros, c'est un rassemblement de très grosses équipes comme les All Blacks, l'Argentine et encore bien d'autres. Ils font aussi régulièrement ce qu'on appelle des tournées en Europe pour s'entraîner contre de grandes équipes européennes telles que la France, par exemple, ou encore l'Angleterre, qu'ils affrontent beaucoup lors des championnats du monde. Du coup, comme vous l'aurez sûrement compris, les Springboks sont l'une des meilleures équipes du monde actuellement.
Mais au fait, pourquoi Springboks ?
Alors, c'est une bonne question. Du coup, petit point historique sur cette équipe d'Afrique. Le surnom Springboks vient d'une gazelle qui n'est présente qu'en Afrique du Sud. Et peut-être d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu le logo de cette équipe, vous aurez sûrement remarqué que cette gazelle est présente sur leur logo. Et je ne sais pas vous, mais pour la prochaine tournée en Europe, j'irai bien y faire un petit tour, car ça doit être vachement cool et quand même sacrément impressionnant de les voir jouer.
Les Chroniques du Soleil, une émission enregistrée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Bonjour, avec nous aujourd'hui Loris Renaudot pour nous parler de jeux vidéo et de son industrie qui rapporte deux fois plus que le cinéma. Alors Loris, de nouvelles consoles vont arriver sous nos sapins en fin d'année ?
C'est bientôt Noël et oui, en cette période de fin d'année, on a tous besoin de se détendre et pour beaucoup, ça veut dire jouer aux jeux vidéo. En ce mois de novembre un peu glacial, on va pas se mentir, on va parler de surchauffe, donc surchauffe d'achat. Vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles consoles ou next-gen pour les initiés sont arrivées en ce mois de novembre dans les magasins et elles font parler d'eux avec beaucoup de difficultés. La PS5 et la Xbox Series X et leurs jumelles à prix réduite parce que sans lecteur de disque, viennent à peine de sortir dans une ambiance un peu triste entre le confinement, les magasins fermés, le manque de stock dans les grandes surfaces, les manques de jeux originaux. Les nouveaux bébés de Sony et Microsoft arrivent dans un non-événement un peu maussade. Alors pour ceux qui ne sont pas des adeptes de ces consoles d'assalon, ça peut sembler bizarre. Mais pour la première qui est sortie, à savoir la nouvelle Xbox, on est loin des émeutes joyeuses d'il y a 7 ans, rapport à la Xbox One. Toujours est-il que pour les fans des deux compagnies, il est difficile de se procurer ces consoles quand elles ne sont pas dans les magasins et qu'elles se retrouvent sur Internet à un prix indécent de 1000 euros, en sachant qu'aujourd'hui, les jeux sont à 80 euros l'unité.
Ok, pour ça, beaucoup de gens se posent une seule et unique question. Où est-ce qu'on peut bien acheter ces consoles le plus ?
Où se vendent le plus ces consoles ? Oui. Ces consoles, justement, se vendent surtout aux États-Unis et en Europe, qui sont, on va dire, surtout les États-Unis, qui est la terre de la Xbox. Mais surtout, des continents qu'on a tendance à oublier, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, on penche plutôt pour le téléphone et le PC. Ça peut paraître surprenant, mais en dehors de certains connaisseurs comme des youtubeurs amateurs ou voulant se faire connaître, ils se mettent à acheter ces machines au prix fort. Dans beaucoup de pays de l'hémisphère sud, on penche plutôt pour des supports numériques moins chers, comme les smartphones ou les vieux PC avec de nouvelles cartes graphiques. Surtout que dans beaucoup de ces pays, le gaming est mal vu. Alors une petite partie de PUBG sur smartphone en scred, c'est mieux si vous ne voulez pas devenir un rebut de la société.
Est-ce que ces consoles ont des défauts qui feraient fuir les fans ou des nouveaux initiés ?
La réponse est oui et non. Beaucoup de gamers qui sont des fans de hardcore et cette façon de jouer aux jeux vidéo ne trouvent aucun défaut apparent à ces consoles. Et pourtant, ce mois-ci, des youtubeurs à la Twittosphère découvrent aussi d'autres problèmes. Du côté de ces deux consoles, on trouve la célèbre phrase « c'est beaucoup trop cher ». On trouve des difficultés à naviguer aussi dans les menus, des bruits de surchauffe qui font penser à un radiateur et surtout des chargements et des mises à jour beaucoup trop longues. Alors on dira que les next-gen ne sont pas assez complètes, qu'il y a des bugs à foison, que le disque dur n'est pas assez performant et que ce n'est pas assez ergonomique. Personnellement, je suis plutôt PC. Du coup, chers auditeurs, quelle est votre console préférée ? Je vous laisse seul juge.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement d'années. Et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend plus d'un million d'années. Et toujours en été.
En été.